Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Christophe Pacaud. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour RTL Soir. Deux grands journaux, des grands invités, vos chroniques, votre météo de l'été en fil rouge, comme tous les soirs, avec la Corse qui pense ses plaies après cette tempête meurtrière que peu de personnes avaient vu arriver hier matin. Nous irons sur place dans un court instant où tout le monde s'est affairé aujourd'hui à remettre l'île en état de marche. Nous recevrons également le commandant Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile, pour revenir sur les moyens mis en place. À Lyon, à Vénissieux, un nouveau refus d'obtempérer qui tourne au drame. Le conducteur d'une voiture volée a foncé sur un barrage de policiers qui ont ouvert le feu. Le passager âgé de 20 ans est mort. La personne au volant est dans un état ce soir d'urgence absolue. L'avocat d'un des policiers qui a fait feu cette nuit témoignera sur RTL dans un instant. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone aujourd'hui et au cœur de leur discussion, la situation dans et autour la centrale nucléaire de Zaporijjia qui préoccupe bien des observateurs. Et puis nouveau grand week-end classé rouge dans le sens des retours. Alors comment ne pas s'attarder ce soir sur les chiffres de la mortalité routière que l'on connaît depuis ce matin. Les chiffres du mois de juillet, 38 personnes en plus que l'année dernière ont perdu la vie sur un total de 354 personnes, dont 89 personnes âgées de plus de 65 ans. Et sans plus tard pour vos conditions de route ce soir, on va faire un détour par la météo, les signés Claire Delorme. Bonsoir à vous Claire.
Bonsoir Christophe.
La tendance ?
Eh bien, c'est un retour complet, en tout cas un retour au calme total pour demain. Tout au plus quelques averses encore à l'est, mais à la Corse. Mais c'est très très local, avec une température moyenne de 24 à 26 degrés.
Toute la soirée, évidemment, bulletin complet dès la fin de ce journal et jusqu'à 19h15. Vos chroniques d'été à venir, 7 jours, 7 reportages, direction le Pays Basque. Les Jeux de l'été, notre série de l'été consacrée à la reconstruction de Notre-Dame. Sans oublier, lancez-vous tenter ce soir avec des conseils littéraires, d'exposition et de télé. Puis un invité prestige à 18h35. Dominique Besnéard, l'agent des stars, producteur de la série télé à succès 10%, il sera avec nous. Il est également le co-directeur du Festival du film francophone d'Angoulême qui fête avec RTL sa 15e édition. Il viendra donc ce soir dans RTL Soir nous présenter les grands films français prévus pour votre rentrée. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Soir,
le journal Christophe Pacaud.
Et cette dernière minute au niveau de Savigny-les-Ormeaux en Ariège, ce choc frontal entre deux véhicules qui a causé, Arthur Pereira, bonsoir à vous, la mort d'au moins 6 personnes.
Oui, de ce que l'on sait pour le moment, l'accident a eu lieu vers 15h40. Un choc frontal entre deux véhicules sur la route nationale 20, sur l'axe Toulouse-Andorre, au niveau de Savignac-les-Ormeaux en Ariège. À l'heure où je vous parle, le bilan provisoire est de 6 morts, selon le maire de la commune que nous venons de joindre. Un bilan qui pourrait s'alourdir, 4 personnes blessées ont aussi été prises en charge par les secours. Plusieurs camions de pompiers et un hélicoptère sont actuellement sur place. En attendant la fin de l'évacuation, la route nationale 20 reste totalement coupée au niveau d'Axe-les-Thermes. On devrait en savoir plus. Un point presse est attendu dans les prochaines minutes.
Merci Arthur Pereira pour ces premières précision et nous reparlerons évidemment de la mortalité sur les routes tout à l'heure avec cette augmentation terrible de 12% des décès supplémentaires par rapport à l'an dernier à la même époque. Alors encore une fois ce soir, prudence extrême sur la route de vos vacances.
RTL Soir,
le journal Christophe Pacaud.
Se relever de cette dramatique tempête qui a fait 5 morts et une vingtaine de blessés. La Corse aujourd'hui essaye de se remettre de cette matinée de cauchemar sur terre comme en mer où deux des victimes ont péri hier au large des côtes. Bonsoir Valentin Boisset.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Et pour beaucoup la journée, on peut le comprendre, était consacrée Valentin à la remise en ordre des habitations, également des routes.
Absolument, le ciel bleu est de retour, alors désormais il faut déblayer d'abord les routes puis ensuite les campings et je peux vous dire que ça va très vite. On voit défiler un peu partout ces remorques remplies de souches d'arbres coupées, de branches. Au camping de Sagone, 20 forestiers locaux sont arrivés dès hier avec leurs tronçonneuses. Ils dirigent des petites équipes de vacanciers venus prêter main forte. Ils se placent le long des routes ou encore sur les parcelles de camping.
500 mètres sur le bord de la route.
Moi, je suis, ouais.
Il s'arrête là.
Donc vous étiez en vacances dans ce bungalow, je vous vois avec une tronçonneuse dans les mains, avec un t-shirt de plage, expliquez-moi un peu ce que vous faites.
9h, on dégage les arbres et les troncs d'arbres sur les tentes éventrées, sur les bungalows. Ah, franchement, c'est impressionnant, parce que là, vous voyez rien en fait. Ouais. Vous voyez rien de ce que c'était ce matin.
Juste à côté, il y a le directeur du camping, Eric Cassio. Je vous sens assez ému quand vous voyez ça, c'est vous qui dirigez un peu les travaux.
C'est jamais vu quoi, c'est incroyable. C'est la population de la région qui s'est mobilisée pour aider tout le monde. Et de faire en sorte que ceux qui restent, en tout cas, continuent leurs vacances sereinement.
Vous l'entendez de l'émotion ici, le travail est presque terminé ce soir. Il faut encore vérifier que les arbres qui ne sont pas tombés sont en bon état, mais le propriétaire a retrouvé un peu le sourire, même s'il faut l'avouer, de nombreux vacanciers ont mis un terme à leur séjour sur l'île de Beauté.
Merci à vous pour toutes ces précisions. Valentin Boisset, envoyé spécial d'RTL, évidemment, sur l'île de Beauté. Ce soir encore, plusieurs personnes vont dormir dans des lieux réservés en dur, bien sûr. On en parlera tout à l'heure à 19h dans la deuxième édition d'RTL Soir. Une mère de famille de 55 ans poursuivie pour avoir provoqué un incendie dans le Gard fin juillet, alors que le risque de feu était maximal, a été condamnée aujourd'hui à 2 ans de prison, dont un avec sursis. L'incendie avait brûlé 2000 mètres carrés de broussailles. Elle était énervée contre ses voisins. Elle a mis le feu avec un briquet juste devant leur maison. 18h05, minuit, un parking désert hier d'un hypermarché à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, un barrage de police et les passagers d'un véhicule qui défient alors les forces de l'ordre et refusent d'obtempérer en fonçant sur les policiers qui ouvrent le feu. Le passager est tué, il avait 20 ans, le conducteur lui, 26 ans, dans un état de mort cérébrale. Bonsoir Frédéric Perruche.
Bonsoir.
On en sait un peu plus ce soir sur ce qui a poussé finalement les policiers à se défendre ainsi.
Oui, après avoir eu confirmation que le véhicule était bien volé, l'équipage s'est approché de la voiture. 2 des 4 policiers sont sortis. Le conducteur a levé les mains en les voyant avant de reculer et de leur foncer dessus délibérément. Le chef d'équipe, âgé de 26 ans, a alors été percuté, projeté sur le capot. Et c'est à ce moment-là qu'il a ouvert le feu à travers le pare-brise à plusieurs reprises et que son collègue, qui se trouvait juste à côté, a également tiré plusieurs fois. 11 tirs au total, selon les premières constatations. Le passager, âgé de 20 ans, est mort sur le coup. Le conducteur a lui été hospitalisé dans un état de mort cérébrale. Tous deux ont de nombreux antécédents judiciaires. Les 2 policiers, même celui qui a été blessé aux jambes, sont actuellement entendus par leurs collègues de l'IGPN. C'est la procédure sous le régime de la garde à vue. Ils s'expliquent sur les conditions d'utilisation de leur arme, qui doit être absolument proportionnée à la menace. La balistique devrait également permettre d'en savoir plus sur les tirs effectués de face, de côté, et de savoir lequel des 2 fonctionnaires a tué le passager et gravement blessé le conducteur.
Frédéric Perruche, vous restez avec nous. Vous avez réussi à joindre il y a quelques instants l'avocat justement du policier qui était sur le capot au moment des faits et qui a tiré à plusieurs reprises sur les occupants de la voiture. Il ne pouvait faire autrement au moment des faits, selon Maître Laurent Boé.
Au moment où les policiers s'approchent, le véhicule brusquement fonce en direction des policiers. Alors c'était totalement imprévisible parce que vous étiez sur un parking, donc les possibilités de fuite étaient multiples. Le véhicule aurait pu partir dans tous les sens et là il va foncer délibérément sur les policiers, dont mon client qui va être happé par le véhicule, qui va se retrouver sur le capot et qui va faire usage de son arme, et un de ses collègues qui va également faire usage de son arme. À ce stade, tout donne à penser que les policiers se sont trouvés dans une situation de péril, de mort imminente, et que l'usage de l'arme, malheureusement, était la seule solution pour eux pour éviter des conséquences plus graves. Lui n'avait jamais fait usage de son arme en intervention, et là, il s'est trouvé dans une situation dans laquelle il ne s'était jamais retrouvé, et dans un risque de mort pour lui et pour ses collègues, qui lui a paru, à l'instant où il fait usage de son arme, totalement évident.
Maître Boé, donc l'avocat du policier qui était sur le capot et qui a tiré à plusieurs reprises sur les occupants de la voiture hier soir. Merci à vous pour ce dossier très complet sur le refus d'obtempérer. Frédéric Perruche du bureau de RTL de Lyon. 18h08, en un instant, on va parler économie et étrangers. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
À 18h10, on va s'intéresser à votre porte-monnaie avec monsieur Touche, Arnaud de son prénom. Bonsoir à vous, Arnaud Touche.
Bonsoir.
C'est vrai qu'en ce moment, vous êtes toujours des bons conseils ou alors vous avez des mauvaises nouvelles pour nous, surtout ceux qui voyagent. C'est un constat assez hallucinant. Mm-hmm. On vient de s'apercevoir que le prix des billets d'avion pour toutes les destinations, on est bien d'accord,
oui,
a augmenté de 43% en un an. Ça fait quand même beaucoup. Comment l'explique-t-on chez les transporteurs ?
Bien la faute au prix du kérosène. Il a quasiment doublé depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et cette hausse des prix d'avion, elle est particulièrement visible depuis le mois d'avril. Et même les compagnies low-cost sont désormais obligées de répercuter ce surcoût. Elles ont de plus en plus de mal à proposer des prix cassés pour attirer les passagers. Le patron de Ryanair a lui-même expliqué la semaine dernière que les vols à moins de 10 euros, c'était bel et bien terminé. En attendant, c'est vrai, bien les billets ont augmenté de 43%, toutes destinations confondues en un an, et jusqu'à 54% de plus pour les destinations en Europe, qui représentent tout de même presque un vol sur deux. Les tarifs des billets sont aussi bien plus chers qu'avant la crise sanitaire. Il faut compter pratiquement 40% de plus aujourd'hui par rapport à 2019. Et ces hausses ne devraient pas s'arrêter tout de suite, Christophe. Je suis désolé, du moins pas avant le mois d'octobre, car les compagnies parient sur une belle arrière-saison. Tant mieux pour elles, effectivement. Et les prix devraient se stabiliser un petit peu avant de remonter pour les fêtes de Noël.
C'est ça, quand il fera mauvais, on paiera moins cher. Ouais, on demande à Claire Delande tout à l'heure la météo pour octobre, novembre, pour acheter nos billets tout de suite.
Exactement.
Arnaud Touche, merci d'être venu jusqu'à nous ce soir en studio ici à Neuilly, à l'étranger. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui ont repris leurs échanges téléphoniques. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir.
Apparemment, Sophie, l'essentiel de la conversation a porté aujourd'hui sur la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia.
Oui, et les deux hommes ont exprimé leur inquiétude face aux risques encourus à la centrale de Zaporijjia, ainsi que leur accord pour qu'une inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique ait lieu rapidement sur place. Vladimir Poutine a prévenu d'un risque de catastrophe de grande envergure si les tirs continuaient sur le site de la centrale. Centrale occupée depuis le début du conflit par les troupes russes qui ont stocké engins militaires et munitions, le site est régulièrement bombardé. Ukraine et Russie se renvoient la responsabilité des tirs. Plusieurs voix se sont élevées pour demander la démilitarisation de la zone. Hier, le président turc Erdogan s'inquiétait d'un possible nouveau Tchernobyl. Les présidents Poutine et Macron doivent se reparler dans les jours prochains au sujet de cette inspection qui devra se faire, selon les deux parties, dans des conditions acceptées par l'ONU et l'Ukraine. Or, Kiev, jusqu'à maintenant, s'est opposé à cette inspection de l'AIEA tant que les troupes russes occupent la centrale.
Sophie Jousselin, merci, service étranger d'RTL. Le président Macron attendu ce soir aux commémorations de la libération de Bormes-les-Mimosa dans le Var, tout près de son fort de Brigançon, sa résidence d'été. Emmanuel Macron qui doit prendre la parole dans moins d'une heure maintenant. Gabriel Baldi, vous êtes sur place pour RTL et il y a déjà du monde pour l'attendre.
Dans les rues montantes de la ville, pas mal de monde attendent la venue du président de la République comme ces touristes venus de la Drôme.
Très contente de le voir. Moi j'aimerais bien lui serrer la main. Voilà. Et lui dire bonjour.
J'ai réussi à une photo avec lui.
Emmanuel Macron est évidemment attendu pour commémorer le 78e anniversaire de la libération de la ville, mais beaucoup espèrent que le discours portera sur d'autres sujets, comme l'énergie. Écoutez Philippe.
Je me demande comment il va articuler le passage de la commémoration à la situation politique avec les priorités.
Quelles sont les priorités pour vous ?
C'est la situation énergétique. Parce que quand on se retrouvera au mois d'octobre avec des coupures d'électricité, on prendra conscience que depuis une dizaine d'années, on a fait n'importe quoi, on n'a fait que du court terme.
Avec ce discours, Emmanuel Macron terminera ses vacances passées à quelques kilomètres d'ici au fort de Brégançon depuis plus de 15 jours. À la rentrée, le président et le gouvernement ont déjà prévu de se pencher sur le sujet préoccupant de l'énergie.
À Bormes-les-Mimosas, Gabriel Baldi pour RTL. Et en ce grand week-end de retour de vacances, prudence une nouvelle fois, vous avez tout le temps, rien ne presse sur les routes. Les chiffres de la sécurité routière ont annoncé en plus ce midi un bilan de plus de 354 morts sur la simple période de juillet. Soit Mathilde Piquet, bonsoir à vous.
Bonsoir.
38 décès de plus qu'en 2021. Et l'on constate que le nombre de victimes a augmenté chez les plus âgés, c'est-à-dire les plus de 65 ans, les fameux seniors. Ça veut dire que ce sont les plus dangereux sur la route ?
Alors, quand on regarde uniquement les chiffres, il y a eu 16 décès de plus que l'an dernier parmi les conducteurs de plus de 65 ans. C'est quasiment la moitié de la hausse de juillet. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément plus dangereux au volant dès 65 ans. En fait, c'est uniquement à partir de 84 ans que les seniors causent plus d'accidents que les 18-24 ans. En cause, la perte de réflexes, par exemple, confondre l'accélérateur avec la pédale de frein. C'est pourquoi certaines associations demandent une visite médicale régulière pour les plus âgés. En tout cas, si la mortalité routière est plus importante après 65 ans, c'est déjà parce que les seniors sont de plus en plus nombreux dans la population et donc sur les routes. Ce sont en fait les conséquences du baby-boom d'après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, les seniors sont aussi plus fragiles. Quand il y a un accident, les conséquences du choc sont plus graves chez les plus âgés.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Mathilde Piquet, n'oubliez pas de lever le pied. Je vous rappelle cette dernière minute dans l'arrière. J'en ai niveau de Savignac-les-Ormeaux, un choc frontal entre deux véhicules qui a causé la mort d'au moins 6 personnes. Les sports à 18h15, troisième journée de Ligue 1, premier match ce soir de cette journée à 21h, ce sera l'OL Olympique Lyonnais face à 3, à suivre dans RTL Foot bien sûr, en compagnie d'Eric Silvestro, avec à ses côtés Xavier Domergue, le titulaire habituel, et une nouvelle recrue, Karine Galli, qui sera avec nous ce soir entre 20h et 23h. Et pendant ce temps-là, de son côté, le Paris Saint-Germain se prépare pour une toute nouvelle grande sortie en grande pompe à Lille. Ce sera donc dimanche avec son trio magique et les problèmes d'ego à gérer depuis une semaine suite à l'attitude de Kylian Mbappé samedi dernier, notamment ce fameux penalty gate, comme on le surnomme, entre le champion du monde tricolore et la star brésilienne Neymar. Tu tires, je tire, une grande discussion. On va revenir avec Christophe Galtier, l'entraîneur. Galtier, l'entraîneur, bien sûr, sur en ce moment, tout ce qui se passe et l'état d'esprit de ces joueurs vedettes avant ce match face à Lille.
Il n'y a aucun malaise. C'est un épiphénomène. On s'est évidemment rapidement vu le lendemain pour aplanir tout ça, dire ce qu'on avait à se dire entre nous. Sur ce match-là, face à Montpellier, il y avait un ordre bien précis. Tireur numéro 1, Kylian. Tireur numéro 2, Ney. Il ne s'est rien passé sur le deuxième pénalty. Ça a été très court, il y a eu une discussion, un échange, une discussion. Et à partir du moment où Ney s'est senti de le tirer, Kylian a laissé tirer Ney. C'est pour ça qu'il n'y a aucun malaise. Et je vous le confirme avec beaucoup de sincérité. On a eu une semaine très agréable dans le travail. Cet épiphénomène du match face à Montpellier a disparu très rapidement, c'est-à-dire au lendemain lors de notre séance de décrassage.
Christophe Galtier, qu'a retrouvé tout à l'heure à la conférence de presse. Philippe Sanfourche, le Tour d'Espagne, ça débute ce soir, la Vuelta avec un contre-la-montre, et puis championnat d'Europe d'athlétisme, ça continue ce soir à Munich avec encore des espoirs de médailles pour la délégation tricolore. La météo à 18h17 avec Claire Delorme, c'est beaucoup plus calme, heureusement.
C'est beaucoup plus calme et le soleil enfin revient, fait de très belles apparitions, donc en matinée il va falloir encore patienter. De la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers l'Alsace, ça sera encore bien couvert avec ponctuellement quelques averses à caractère orageux du Jura en remontant vers l'Alsace, que ce soit vers la Normandie, la Bretagne, les Ardennes, mais aussi en direction du tiers sud et vers la Méditerranée, c'est déjà beaucoup plus ensoleillé, même s'il y a aussi quelques passages nuageux. Un petit peu de brouillard en matinée près des côtes normandes, mais aussi vers des Ardennes, mais après leur dissipation, c'est vraiment les éclaircies qui prennent le pas. Ça sera de plus en plus ensoleillé l'après-midi vers les Pyrénées, vers la Méditerranée, mais aussi vers la Corse, et tant mieux, seulement quelques averses très locales, principalement en montagne, mais également en fin de soirée vers les Alpes du Nord en remontant, là encore, vers l'Alsace. Pour les températures, il faudra compter entre 10 à 19 degrés du nord au sud jusqu'à 23 degrés vers le rivage méditerranéen. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures sont stationnaires, comprises entre 24 et 26 degrés. C'est assez homogène, mais encore un 30 degrés, voire un petit peu plus, près de la Méditerranée et ponctuellement dans le sud-ouest.
Merci beaucoup, Claire Delorme. Vous restez avec nous. On va recevoir dans un instant le commandant Alexandre Joissard, chef du bureau de la communication et porte-parole de la sécurité civile.
RTL Soir. Christophe Paco, l'invité d'RTL Soir.
Avec le commandant Alexandre Joissard qui nous rejoint ce soir en studio ici à Neuilly, RTL. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole de la sécurité civile. On voulait revenir quand même sur ces drames de l'été, notamment déjà hier, ce drame que personne finalement n'a vu arriver. C'était difficile de le prévoir, on le sait, on en parlait avec Claire Delorme hier soir dans RTL Soir. C'est trop difficile à prévoir aujourd'hui ce genre d'incident.
En tout cas, on voit la difficulté de pouvoir anticiper cet événement. Et le manque d'anticipation nous impacte, nous, directement au niveau de la sécurité civile, puisque les actions à mettre en place sont évidemment différentes si on a 12 heures d'avance ou si on a juste une demi-heure ou 10 minutes, comme ça a été le cas avant-hier.
Et en plus, c'est une île, c'est peut-être plus compliqué ensuite pour faire venir des secours ou pour évacuer les gens.
Oui, mais on avait un avantage certain, c'était d'avoir des équipes, nos moyens nationaux, qui sont engagés pour la partie feu de forêt, c'est-à-dire qu'on avait 6 sections, donc plus de 150 femmes et hommes qui étaient sur l'île, en plus des moyens locaux, pour pouvoir porter secours. Donc ils ont la polyvalence, ils étaient là pour les feux de forêt, mais ils ont des lots tronçonnage, des lots intempéries qui ont été utilisés et qui ont pu faire le travail pendant la mission.
On l'a vu, on l'a constaté dans l'épisode de l'incendie dans les Landes, que tout le monde était au même endroit, qu'il y a un vrai PC sécurité qui s'organise. Là, comment on fait en Corse, quand entre la Corse du Nord et la Corse du Sud?
Oui, vous avez un poste de commandement opérationnel. Là, sur les deux départements, il y avait un poste de commandement qui était activé. Ces postes de commandement permettent de coordonner les moyens. Et après, sur la partie remontée d'information, vous avez un état-major de zone qui a fait d'ailleurs un travail considérable depuis le début de l'été, puisque c'est lui qui coordonne les moyens, qui nous donne des informations et qui remonte au centre opérationnel de gestion interministérielle de crise basé à Paris, qui permet d'avoir une information globale sur l'ensemble du territoire. ça.
Évidemment, il y a le côté dramatique. Il faut tout de suite essayer de protéger le plus d'humains. 5 morts, on le sait, beaucoup de blessés encore aujourd'hui. Il y a eu des évacuations, il y a eu des transferts vers le continent ?
Non, la plupart des blessés, donc graves et légers, ont été traités directement sur l'île. Par contre, là, vous avez raison, c'est qu'il y a une coordination très importante entre les moyens terrestres et les moyens maritimes, parce qu'on avait des disparus et sur la partie terre et sur la partie mer.
Et 2 personnes qui ont péri en mer, justement. Je pense au contrôle de Claire Delorme, qui hier nous parlait de ses balises. Je vous écoutais, Claire. Et c'est vrai qu'il y en a sur terre, il y en a peu sur mer, il y en a beaucoup, vous disiez ?
Il y en a, en fait, très peu.
Hein. Très peu.
Très peu. Et donc, c'est pour ça, en fait, on n'a pas du tout le temps, en tout cas la mesure, de pouvoir recueillir certaines données, comme les cumuls de précipitations, encore la force des vents. Et c'est pour ça que nous avons été surpris lorsque les orages ont débarqué sur la terre ferme, en fait.
Il y en faut un peu plus, tout simplement. C'est une histoire de coûte.
En tout cas, c'est une réflexion d'avoir vraiment ces données-là plus en amont, parce que si on avait eu des balises en mer, on aurait pu savoir qu'on avait des vents, des rafales très fortes. On aurait pu savoir qu'il y avait une pluviométrie aussi importante. Et donc, ça permettait tout de suite de basculer en orange. Si on bascule en orange, voire en rouge en amont, nous, en termes de messages, de coordination, notamment des préfectures, est-ce qu'on évacue ? Est-ce qu'on gère ? Parce que ça aussi, il faut se poser la question dans cette condition-là. C'est-à-dire qu'hier, avoir l'information à 8h ou 8h15, vous connaissez les routes de Corse, évacuer des milliers de personnes sur des routes qui sont assez courtes et assez peu larges, vous allez créer même des risques supplémentaires. Donc c'est une option, une information qui est très importante d'avoir le plus tôt possible, et là ça n'a pas été le cas.
C'est l'île aux 10 000 virages, c'est sûr que c'est compliqué de savoir à l'avance, bien sûr, mais on a l'impression, on le dit beaucoup dans ce bulletin météo avec nos experts, aujourd'hui on sait qu'on va, ça va tendre, que ce soit pour les incendies ou pour des orages d'une telle violence, on en aura de plus en plus, c'est malheureusement notre environnement de demain. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, s'attaquer aux forêts, planter différemment? On avait hier le maire d'un petit village de Cisco, qui est le président des maires de Corse, qui disait on veut construire pour faire de l'ombre simplement dans son jardin, il faut penser à autre chose maintenant.
Je pense qu'à l'issue de l'été 2022, il est certain que aussi bien sur la partie sécurité civile que sur une partie plus globale, il va y avoir des réflexions sur ces plantations, mais aussi des réflexions sur comment on peut mieux prévenir cette population, avoir une meilleure prévention aussi sur les comportements
humains.
C'est
quoi, c'est du SMS, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut
faire
de plus ?
Alors oui, on a des systèmes d'alerte qui sont développés. On a d'ailleurs le FR Alert qui, au cours du deuxième semestre, va vraiment nous permettre d'avoir un outil supplémentaire, complémentaire de ce qu'on a aujourd'hui. C'est la capacité d'avoir sur l'ensemble des smartphones une alerte en temps réel. Donc si on est en 4G, 5G, tous les téléphones vont recevoir en même temps. On ne push pas des SMS. Par contre, quand on a en dessous de la 4G, il y a toujours ce système de SMS localisé qui va continuer de fonctionner. Ça, c'est sur la partie alerte. Mais après, au-delà de l'alerte, et je vous l'ai dit pour hier, une fois qu'on a l'information, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où la prévention est très importante. Le 13 octobre, on veut faire une journée de prévention globale sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'on appelle la journée japonaise. Pourquoi on l'appelle la journée japonaise? Parce que le Japon est très fort dans la capacité d'informer sa population sur le comportement à risque. Pourquoi le Japon est fort en ce sens? C'est parce que cette île a l'ensemble des risques présents sur son territoire. J'ai envie de dire, au vu de ce qu'on est en train de vivre, c'est le cas aussi de la France.
En étant très concis, ça veut dire que c'est dès l'enfance qu'il faut s'en occuper.
Oui, dès l'enfance, on le voit avec les tri, on le voit avec l'écologie. On a amélioré les changements comportementaux grâce aux enfants. Je pense que ma génération aujourd'hui ne se pose plus la question du tri. Ça sera la même chose demain pour la sécurité civile, c'est ce qu'on souhaite.
Merci d'avoir été aussi complet, en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Le commandant Alexandre Joissard était notre invité, porte-parole de la sécurité civile. Et encore plein de messages à faire passer aussi à vos équipes, hein, parce qu'avec les incendies et la Corse hier, il y a beaucoup de travail. Il y a eu une nouvelle vague de chaud. Il disait que Claire, c'est ça, à partir de la semaine prochaine. Hein.
C'est un scénario qui reste à confirmer, mais en effet, un potentiel pic de chaleur à partir du milieu de la semaine prochaine.
Merci à tous les deux. Merci
à vous.
Commandant, merci à vous. Dans un instant, on va jouer à bord des voitures, bien sûr, parce qu'il faut s'occuper aussi pendant les vacances et prendre son temps, ne pas prendre de risques.
RTL Soir. RTL. Laurent Marsic.
Eh oui, Laurent, l'éducation des enfants, c'est important. Ça passe aussi par le jeu. Soyez prudents sur la route des vacances. Dans ce sens des retours, vous le savez, c'est classé rouge à partir de ce soir, bien sûr. On va jouer, on va occuper les enfants, Laurent, avec un jeu tout sourire.
Voici un jeu à faire dans les embouteillages. Donc un jeu silencieux pour ne pas déranger celui ou celle qui conduit. On sait, et tu as sans doute remarqué, que les conducteurs s'aiment beaucoup entre eux. Ce n'est pas nouveau, rassure-toi.
Troisième file.
Eh bien, dans ce jeu du sourire, nous allons inverser la tendance. Tu dois te munir d'un papier et d'un crayon pour noter les points de chacun. Tu n'as pas le droit de parler, mais tu as obligation de sourire. Sourire aux autres conducteurs des voitures qui nous dépassent, par exemple. Tu as le droit de faire un petit signe de la main et tu comptes les voitures qui te répondent. Un klaxon, un appel de phare, voire encore mieux, un sourire. C'est un jeu que tu peux faire sur la route de vacances, mais aussi à chaque fois que l'occasion se présente. Tu verras, distribuer des sourires, il n'y a rien de mieux. If you just
smile. J'adore ce petit sourire fantastique. I love that. Merci Laurent Marsic. Je rappelle que ce podcast est à retrouver, bien sûr, un jeu, une histoire sur l'appli RTL. C'est en partenariat avec les éditions Albin Michel Jeunesse.
RTL. 7 jours, 7 reportages.
RTL à l'heure d'été, 7 jours, 7 reportages jusqu'au 29 août, bien sûr, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. On vous amène dans une région différente, hein, chaque fois. Depuis lundi, nous sommes au Pays Basque, à la rencontre des Français qui sont en vacances, mais aussi de ceux qui travaillent. Et c'est avec vous, Nicolas Burnand. Bonsoir à vous.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Et vous avez décidé ce soir, Nicolas, de nous faire visiter une merveille du Pays Basque, les grottes d'Istouritz et de Hotxosellaia, j'essaie de bien prononcer, à la rencontre, attention, de nos ancêtres, les Homo sapiens.
Oui, l'entrée de ces grottes se situe sur une colline perdue au milieu de rien. Une dizaine de vacanciers se pressent pour la visite, mais avant de commencer, Laura, la guide, donne quelques indications.
Je comprends que ce soit tentant, surtout à Hotxosellaia, vous allez voir. Il y a des endroits qu'on aimerait bien découvrir avec les mains, mais c'est très important, on ne touche à rien. Et je vous donne une bonne raison à ça, hein. C'est tout simplement parce que naturellement, la peau de nos mains, en fait, elle sécrète une petite pellicule de graisse avec de l'acidité et des petites bactéries. Mais le problème, c'est que si ça vient en contact de la calcite, la roche dont est faite Hotxosellaia, celle-ci se met à noircir. C'est bon pour vous, messieurs, dames ?
On parcourt d'abord un long couloir. Nous sommes entourés par des formations rocheuses, des stalactites, des rivières de calcite. Il ne fait pas plus de 14 degrés. Il y a des échafaudages ici, des fouilles archéologiques ont toujours lieu. Puis on découvre une immense salle.
Il y a 28 000 ans, ils sont rentrés par ici. Ils se sont installés le long des parois. On retrouve énormément d'ateliers de parure avec toujours une très très grande collection de perles. Hein. On a aussi retrouvé des ateliers de confection d'outils, hein, principalement des armes pour aller à la chasse, hein, au gros gibier. Mais alors par contre, ce qui fait assurément la réputation mondiale de notre grande salle, hein, ce sont les 3000 objets d'art mobilier. Des petites œuvres d'art qu'on va pouvoir déplacer d'un endroit à l'autre. Un haut lieu de rassemblement à la préhistoire.
Jusqu'à 400 hommes et femmes pouvaient se rassembler ici pour échanger des objets, manger, se rencontrer et trouver des partenaires. Sur certaines roches, il y a encore des sculptures d'animaux, de biches, de poissons qui font la renommée de ce site.
Alors comment vivent les touristes, Nicolas ? Finalement, il y a ces visites, parce que vous les suivez en même temps, hein, c'est ça, hein ?
Eh bien, à mesure que l'on traverse les cavités, on en apprend plus sur les origines des minéraux et ce que les hommes faisaient ici. Mais il faut faire attention, c'est très facile de se perdre. Julien et son fils viennent de Bretagne.
C'est toujours un grand émerveillement, en fait, de se rendre compte d'où on vient. Et puis ce qu'ils ont fait, leur évolution. Et puis, du coup, ces endroits magiques qu'ils ont peut-être pas vus, parce qu'il n'y avait pas de lumière autant qu'aujourd'hui. Donc non, c'est un super endroit, un super site.
Qu'est-ce que tu as appris ?
Qu'ils pouvaient faire de la musique avec les parois et qu'ils faisaient des flûtes avec des os d'oiseaux.
Les vacances, est-ce que c'est aussi fait pour apprendre ?
Bien sûr, en famille. C'est ça qui fait toute la richesse des vacances, c'est d'en profiter culturellement et puis d'en profiter aussi, de se reposer.
Ouais, c'est intéressant, évidemment. Mais vous avez pu également le constater, Nicolas, les sécheresses à répétition endommagent malheureusement peu à peu ce site exceptionnel.
Absolument. Les guides m'ont raconté que nos ancêtres ont toujours été tributaires des évolutions climatiques, se réfugiant dans ces grottes lors de la période glaciaire avant de ressortir chassés par des torrents de boue. Mais ces dernières années, les canicules modifient peu à peu cet environnement. Maud fait des visites depuis 3 ans.
On remarque quand même, dès qu'on approche de la saison plus chaude, un manque d'eau, tous les bassins qui sont complètement à sec et un manque de renouvellement de l'eau. Et l'eau est quand même l'élément clé, hein, de la vie de ce milieu souterrain, ça permet de consolider toutes ces parois, toutes ces concrétions.
Quand vous voyez ce climat changer ici, qu'est-ce que ça vous inspire ?
J'essaie de profiter des moments où on entend justement l'eau plus dans la grotte. Dès que l'eau arrive, en fait, on a une grotte qui est plus vivante, on a une musique aussi finalement qui est plus présente et faut profiter justement de ces quelques instants qui se font plus rares où l'eau a sa place pleinement dans ce milieu souterrain. Donc c'est comme ça que je le vis. Je vais pas me dire, zut, il y a plus d'eau, je vais essayer de profiter des moments où il y en a plus.
Chaque année, ces grottes sont visitées par des milliers de touristes, ce qui permet, grâce aux revenus des entrées, de préserver ce site exceptionnel.
Merci à vous mille fois pour cette grande semaine au Pays Basque, Nicolas Burnand. 7 jours, 7 reportages à retrouver sur RTL. rtl.fr.
RTL Soir avec Christophe Paco.
Les trois grands titres de l'actualité, au moins 6 morts dans un très violent accident de la route en Ariège cet après-midi. Une collision frontale entre deux véhicules s'est produite sur la RN20 tout près d'Aix-les-Thermes. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé cet après-midi. Le président russe qui évoque un risque de catastrophe de grande envergure à propos des tirs autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Emmanuel Macron a demandé à son homologue une visite de la centrale dans les plus brefs délais par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une enquête ouverte par le parquet de Lyon après un refus d'obtempérer qui a tourné au drame. La nuit dernière, le conducteur d'une voiture volée a foncé sur des policiers lors d'un contrôle, ce qui les a conduits à ouvrir le feu. Le passager de la voiture de 20 ans est mort et le conducteur de 26 ans, lui, est en état d'urgence absolue ce soir. Enfin, le football, coup d'envoi ce soir de la troisième journée de Ligue 1. C'est à 21h le coup d'envoi pour l'OL, l'Olympique Lyonnais, face à 3 matchs à suivre en intégralité dans RTL Foot. La météo, Claire Delorme, pour ce week-end.
Eh bien, c'est un retour au calme pour un week-end très ensoleillé, particulièrement pour la journée de dimanche, en attendant encore un petit peu de patience dans la matinée de samedi, puisque le ciel restera quand même bien couvert, bien nuageux de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers l'Alsace avec ponctuellement quelques averses à caractère orageux, que ce soit vers le Jura ou en direction de l'Alsace, partout ailleurs, que ce soit Bretagne, vers les Hauts-de-France ou encore en direction des Pyrénées, vers la Méditerranée, eh bien ça sera très ensoleillé, même davantage l'après-midi vers les régions méditerranéennes, auprès du Mistral et de la Tramontane qui va souffler de manière sensible jusqu'à 70 km/h. Et pour les températures, eh bien nous sommes dans les normales de saison. Il fera 23 à 28 degrés du nord au sud et on pourrait avoir quelques pointes de 30 degrés l'après-midi, que ce soit encore près du sud-ouest et jusqu'à 33 degrés près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Claire Delorme. Dans un instant, on vous emmène dans un lieu complètement interdit au public. Depuis le début de la semaine, nous sommes sur le chantier le plus suivi en France, Notre-Dame de Paris, en pleine reconstruction. C'est notre série de l'été. Mais auparavant, invité exceptionnel ce soir, c'est le co-président du Festival du film français francophone d'Angoulême, Dominique Besnéard, agent de star, avec nous dans un instant.
RTL Soir. RTL Soir. Avec Christophe Paco.
On va parler 7e art donc ce soir, et c'est tant mieux, avec Dominique Besnéard, notre invité. Bonsoir à vous.
Bonsoir, merci de m'avoir invité.
Je vous présente de quelle façon finalement ? Je vous présente quoi ? Comme co-président, co-créateur du Festival du film francophone d'Angoulême, comme producteur, comme attaché de presse ?
Non, non, surtout pas attaché de presse. Non, je suis co-délégué du festival avec Marie-France Brière. Donc nous sommes deux, nous avons créé ce festival il y a 15 ans. Donc je suis heureux d'être là et d'avoir fait le voyage exprès pour venir. C'est vrai qu'après ces 6 mois où j'irai... Un an où le cinéma, on dit que la fréquentation est un petit peu...
Est-ce qu'il y a le cas compris. Parce qu'il y a le cas, t'as la baisse quand même.
Oui, t'as la baisse, on dit 30%. En tout cas, ben, nous, on peut peut-être annoncer qu'on a 30% de plus de réservations. Donc ça se passe très bien. Est-ce que Angoulême va être le départ de la nouvelle saison cinématographique ? Je le crois, ça a toujours été le cas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de diversité. On exprime bien ce qu'est le cinéma francophone.
Aujourd'hui.
À la fois des films d'auteur, des comédies, des avant-premières, des hommages. Cette année, on a Pathé qui on rend un hommage. Et puis, il y a un jury présidé par André Dussolier. Et puis, la francophonie, des films belges, des films du Québec, des films suisses. Voilà.
C'est le moment idéal pour savoir ce qui va se passer pour nous entre la rentrée et on peut dire jusqu'à la fin de l'année, c'est ça?
Exactement. C'est un petit peu le tableau, la vitrine de ce qui va se passer à la rentrée. On fait l'ouverture avec La Belle Course.
Danny Boone.
Et Lynn Renault. Hein.
N'oublie pas.
Ça raconte l'histoire d'une femme qui va aller dans un EHPAD et elle fait son dernier voyage avec un chauffeur de taxi qui va tout d'un coup s'attacher à elle le temps de faire le tour de Paris.
Ça, c'est beau, hein, c'est un beau programme. C'est l'ouverture, ça, en tout
l'ouverture.
Cas. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans. Quand on regarde les succès de l'année, il n'y a pas eu 36 000, il y a toujours les Tuches, il y a Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, bien sûr. Mais il y avait ce film sur les retraites qui a bien marché aussi. On est un peu dans la même lignée que Maison de retraite.
Oui,
mais c'est pas le même romantisme non plus.
Non, c'est peut-être un peu plus profond. Parce que moi, ce que j'aime, c'est quand il y a des comédies et qu'il y a de la profondeur. Et je m'aperçois, et Stéphane Boutsock vous le dira, que je sens que la comédie à la française, qui était un peu prévisible et des fois un peu lourdingue, moi, je vois des films cette année où la comédie est assez profonde et assez poétique, absolument formidable.
Danny Boone, vous l'avez dit, Dubosc, Gad Elmaleh, tous ces gens-là seront
et
là.
Et puis aussi Simone, autour de le film sur Simone Veil, avec Elsa Gimbernstein. C'est la mise en scène d'Olivier Dahan. Ce film, il y a peut-être un certain temps qu'il est terminé, mais il pouvait pas sortir à cause de la pandémie. Et là, nous, on est très heureux de l'accueillir en grande pompe à Angoulême.
Vous venez de parler de la pandémie, de la Covid, évidemment, qui a tous affecté, notamment ce secteur du cinéma, bien sûr. On pensait que tout le monde allait retourner au cinéma. Finalement, on s'aperçoit que les jeunes vont beaucoup au cinéma, voir des grandes productions américaines, bien sûr, les Thor, les Top Gun et autres, et que les adultes ont du mal à y retourner au cinéma pour voir des bonnes productions françaises. On voit les chiffres, ils sont pas mirobolants, on est d'accord?
Oui, mais c'était cet été, moi je suis toujours positif. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, il y a eu le magnétoscope, on me dit, oh là là, on va plus aller au cinéma. On
est retourné les plateformes aujourd'hui, c'est vrai
Sauf que les plateformes, ça a des limites, c'est bien pour voir les séries, des fois les films faits que pour les plateformes, c'est pas vraiment le top. Alors quand il y a des rétrospectives sur Truffaut, bien sûr que c'est bien, mais moi je pense que le cinéma est essentiel au rapport. Quand il y a 500 personnes qui regardent Aline à Cognac et qu'ils sont médusés, ils sont contents, ils chantent, vous n'allez pas ça chez vous, vous n'allez pas danser devant Aline avec votre femme ou vos enfants.
Non, mais je disais tout à l'heure, en propos liminaire, c'est un 7e art, c'est un art qui nous est cher, et ce festival, on le rappelle, d'Angoulême, le 15e du nom, le festival du film francophone, il n'y a pas que les Français. Vous avez dit 30% de plus tout à l'heure.
Oui, sur les achats de places, parce que nous, on achète avant les places.
Et ce que je veux dire, c'est que quand on parle de pourcentage, je suis obligé de vous parler de 10%.
Ben oui,
c'est à vous, ça, monsieur.
Il faut vraiment que ce soit... On nous attend tournant.
Hein. C'est ça.
Alors, donc, on peut pas... Et que l'écriture, pour le moment, n'est pas au top, mais on va y arriver. Moi, je pense qu'on va peut-être se tourner vers un long métrage, comme dans Downton Abbey. Mmh. On ferait un long métrage pour avoir... Parce que aussi, le problème, c'est que nos acteurs, maintenant, ils sont tous des vedettes, ils sont tous par Mons et par Vaux. Vous savez, on l'a pas fait comme ça, 10%, on a mis 7 ans pour le faire. Personne voulait le faire.
Mais tout le monde vous attend, vous l'avez dit. Alors pourquoi pas un film, c'est vrai, vous avez raison.
Ben on va faire un film, voilà, ça sera très bien.
On vous souhaite le meilleur des festivals, ça commence mardi prochain, ça va durer une semaine avec les Valois d'Or sur scène.
Et les Valois de Diamant maintenant.
De Diamant.
Ça joue Diamant.
Bon, ben vous la jouez, vous avez raison, vous serez aux côtés de Stéphane Boutsan qui sera avec nous en cette fin d'été, bien sûr, tous les matins, tous les soirs, dans Laissez-vous tenter de l'été.
Et puis merci à RTL parce que toute l'année, dans si Laissez-vous tenter, Stéphane Boussoc rappelle quand il y a un film qui sort, on l'a vu à Angoulême. Et je peux vous dire que ça, c'est la fidélité, ça compte.
Ah oui. Il y aura un petit rôle dans le prochain 10%, Stéphane Boussoc. Tout ce que vous l'avez cité, non?
Peut-être avec vous.
Ah, qui sait? On fera une émission de radio avec Stéphane Boussoc, que je salue. Déjà Angoulême, il est déjà parti à Angoulême, bien sûr. Merci mille fois, Dominique Bessière, d'être venu nous voir dans RTL Soir.
RTL, les séries de l'été.
Vous allez adorer, Dominique, cette semaine, RTL vous emmène dans les coulisses du chantier de Notre-Dame, rongé par les flammes, on s'en souvient tous, en 2019. La flèche effondrée, Emmanuel Macron qui fixe alors un cap, un calendrier, reconstruction terminée en 2024, soit 5 ans pour rendre la cathédrale au culte et au public. Et ce soir, avec Sophie Orange, nous allons vous faire découvrir les métiers de facteur d'orgue et d'harmoniste qui restaurent en ce moment l'orgue de Notre-Dame, le plus grand de France, et ça dure depuis 2 ans maintenant. Bonjour à vous, Sophie Orange.
Bonjour à tous.
C'est un énorme chantier, on a bien compris, puisque l'orgue compte en plus, on a bien compté, 8000 tuyaux.
Oui, vous savez, tout est hors norme à Notre-Dame. La bonne nouvelle, c'est que l'orgue n'avait pas été abîmé par les flammes ou l'eau des pompiers. La première inspection, quelques jours seulement après l'incendie, a surtout montré de la poussière de plomb partout, dans tous les interstices. Trop dangereux pour la santé, il fallait tout nettoyer, mais impossible de le faire sur place. Il a donc fallu tout démonter, pièce par pièce, à part le buffet du grand orgue. Un chantier de 6 mois, entre le 3 août et le 9 décembre 2020. Nous y étions le dernier jour, avec Christian Lutz, le maître d'œuvre de ce chantier, et Mario D'Amico, directeur de l'atelier Coirin.
Il y a 8000 tuyaux qu'on a démontés très soigneusement. On a emballé presque comme des sculptures du musée du Louvre. On a rempli 4 containers et un camion. C'est l'orgue le plus grand de France. 12 mètres de largeur pour 12 mètres de hauteur.
Là, on rentre dans l'instrument.
Voilà, il faut imaginer que cet orgue, c'est comme un immeuble qui aurait 3 étages de tuyauterie au-dessus.
Mais c'est incroyable de se dire qu'on est à la place des tuyaux.
Voilà, tuyaux dont certains sont tout petits. Il y en a certains qui sont aussi un crayon en fait, et les plus gros, une trentaine de centimètres de diamètre.
Donc on prend un petit escalier en bois, direction le dernier étage de l'orgue.
Donc là on est arrivé au 3e étage de l'instrument, sur le plafond de l'instrument, donc il n'y a plus de tuyaux après ça.
Incroyable. Et tout s'est tellement bien passé que le démontage s'est terminé 2 mois plus tôt que prévu.
Il y a du travail, c'est un chantier tellement énorme. Alors Sophie, désormais, où sont ces 8000 tuyaux et toutes les autres parties de l'orgue ?
Impossible de tout restaurer au même endroit. Trois ateliers se sont donc répartis le travail. L'atelier Coirin, dans le Vaucluse, s'occupe des 850 électro-aimants et des 180 vérins pneumatiques, indispensables au bon fonctionnement de l'orgue. En Corrèze, l'atelier Catio va décontaminer et réviser la console, plus les 8000 tuyaux, un par un. Et à Lodève, dans la manufacture languedocienne des grandes orgues, où nous allons nous rendre tout de suite, ce sont les 19 sommiers qui font l'objet de toutes les attentions. Les sommiers, pièces invisibles, cachées au cœur de l'instrument, mais indispensables, explique Christian Lutz, maître d'œuvre de la restauration de l'orgue de Notre-Dame.
C'est les pièces de bois, une construction de bois sur lesquelles sont posés les tuyaux, où arrivent les informations qui viennent de l'organiste et où arrive l'air sous pression.
Les sommiers sont posés bien à plat sur de grandes tables de bois, des grands carrés d'un mètre de côté. Sept facteurs d'orgue travaillent dans l'entreprise de Charles Salero.
On enlève tout ce qui se démonte aux sommiers parce qu'il nous faut les rendre parfaitement étanches. Chaque gravure là, que vous voyez ici correspond à une touche du clavier. Et on a pour faire l'étanchéité de la peau d'agneau.
On va se déplacer dans cet atelier et on va retrouver, je vais vous demander de vous présenter, bonjour.
Bonjour, je suis Monsieur Galinier, facteur d'orgue depuis de nombreuses années, on va dire. C'est un métier où on travaille avec des outils anciens, on va dire. Ça n'a pas évolué depuis le 18e siècle. On est très peu mécanisé, en fait.
Petit essai de notes. C'est bon, le sommier est étanche.
Ah, c'est impressionnant. Moi, je suis toujours subjugué par tout ce travail, hein, Sophie Orange. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ?
Eh bien, dans un an et demi, le temps que les trois ateliers finissent leur restauration, l'orgue va être remonté dans la cathédrale. Nous serons alors en décembre 2023. Dernier travail, et pas des moindres, l'harmonisation pendant 6 mois, en pleine nuit, sans les bruits du chantier.
Vérifier que leur timbre, leur couleur sonore sera bien celle d'avant. Pas un qui sonne plus fort ou moins fort, ou un qui est plus criard ou un peu plus doux. Ça demande une oreille très exercée, ce qui veut dire que son travail sera effectué entièrement de nuit. Le silence absolu. Et c'est ce 1% qui fait toute la différence entre un orgue quelconque et un chef-d'œuvre.
De sorte que, en avril 2024, l'orgue puisse retentir dans cette cathédrale, faire vibrer toutes ces pierres et toucher le cœur et l'âme des gens qui entendront à nouveau cet orgue magistral.
Un orgue magistral et restauré, le vœu le plus cher du général Georges Lin qui supervise le chantier de Notre-Dame.
Les séries de l'été, cette semaine consacrée à Notre-Dame, sa restauration, sa reconstruction avec Sophie Orange. Demain d'ailleurs, nous découvrirons avec Sophie comment les artisans vont panser toutes les plaies des sculptures en bois et en pierre de cette cathédrale qui nous est chère. Notre-Dame, à retrouver en podcast évidemment sur rtl.fr. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été avec ce soir un roman très intéressant, on parle de l'homme idéal. Pourquoi tu me regardes ? Laurent, c'est bien, c'est gentil de ta part. T'es pas un homme idéal, toi ? D'accord.
Si, je vous laisse juger.
Ah, on se laisse juger. Ça dépend de ton plateau de télé ce soir.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça arrive dans une minute.
Ça va être très musical.
RTL Soir. RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
J'adore ce moment. C'est un moment obligatoire, c'est vrai, toute l'équipe. Bonsoir Bernard Lehu, bonsoir Laurent Marseille.
Bonsoir.
Ah, vous êtes en forme hein, ce soir. Ouvrage, attention Bernard Lehu, je vois être coquin Bernard ce soir. Et Laurent Marseille aussi, tu nous prépares un plateau télé de dingo quoi, pour ce week-end, pour nous mettre dans le week-end quoi, finalement. C'est ça.
Exactement.
Tout à l'heure, on était dans la lecture avec les petits-enfants, c'était le sourire, tout sourire, hein, pour terminer. On va commencer par votre bibliothèque, je me tourne vers vous Bernard Lehu. Elle a été cette année la révélation de la dernière rentrée littéraire. C'est Maud Ventura qui a donc fait un carton avec son livre intitulé « Mon mari ». Et selon vous Bernard, donc, c'est amplement mérité.
Ben oui, parce que c'est un premier roman férocement drôle, et ils sont plutôt rares. Une femme raconte, elle a tout pour être heureuse, elle a épousé le mari idéal, et pourtant elle s'obstine à se persuader du contraire, Maud Ventura.
C'est le grand paradoxe que j'ai voulu explorer dans ce roman. On peut vivre avec la personne qu'on aime, on peut être aimé en retour, et pourtant ça ne va pas. Et pourtant on ressent un manque immense dans la poitrine, on a l'impression qu'on ne sera jamais aimé assez, on a l'impression que ce n'est pas comme on voudrait, et on se sent infiniment seul. D'où ce paradoxe qu'elle explore, ma narratrice, dès les premières pages du roman. Elle dit « Mais en fait, personne ne peut me plaindre, je vis avec l'homme de ma vie, il ne va pas me quitter, il n'est pas infidèle, il rentre à la maison tous les soirs à la même heure, donc tout va bien ». Mais alors pourquoi je me sens si mal ? Pourquoi je me sens si seule ? Et pourquoi j'ai toujours besoin de l'étape d'après ? Est-ce qu'on peut trop aimer quelqu'un ? Et est-ce que l'amour parfois peut tirer vers le monstrueux ?
Ah ben oui, monstrueusement amoureuse, la narratrice de Maud Ventura le devient jusqu'à l'absurde, la folie. Une seule obsession la guide, prendre son mari en défaut, épier ses moindres faits et gestes, lui tendre des pièges. Son mari se couche un soir sans lui dire bonne nuit. Oh, c'est le signe qu'il ne l'aime plus. Il lui lâche la main sur le canapé devant la télé, la preuve qu'il la trompe. Lors d'un dîner où les convives s'amusent à se comparer à des fruits, son mari l'imagine en clémentine. Une clémentine. Mais pourquoi pas un fruit de la passion? Et c'est le drame. On rit bien sûr. Et en même temps, on se dit que Maud Ventura est une observatrice implacable de la vie à deux.
Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. C'est qu'en couple, parfois, j'ai l'impression que le champ du couple est un champ de mine. On s'envoie des choses au visage qui sont très blessantes, sauf qu'il ne faut pas réagir. Sinon, on est un peu, pardonnez mon langage, un peu relou. Donc, l'autre va dire quelque chose, on va un peu mal le prendre, mais il faut passer à autre chose parce qu'il y a les enfants emmenés à l'école, il y a d'autres choses à faire, donc on ne peut pas revenir en disant « j'étais un petit peu vexée ce matin quand tu as dit que ». Donc, on ne relève pas. Sauf que c'est une fiction, c'est une histoire. Donc, je me suis fait plaisir et je me suis dit « et si mon personnage justement relevait ?» Toutes les fois, on est un peu vexé.
Ah, c'est passionnant, Bernard et Maud, c'est formidable. Et puis Bernard, franchement, Maud Ventura vous a également bluffé par la qualité de son écriture.
Oui, son récit va crescendo et on se dit jusqu'au bout que la folie de son héroïne peut nous emmener aussi bien vers une issue complètement folle dingue que vers un thriller hitchcockien. Et ça, c'est très fort et je ne vous en dirai surtout pas plus.
Donc le livre est structuré sur une semaine, donc chaque chapitre va du lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche. Je dissémine mes événements au fur et à mesure pour que le lecteur se dise « bon, ok, lundi se passe ça, mardi, non mais attendez, s'il se passe ça mercredi, qu'est-ce qui va se passer jeudi, vendredi ?» Et il sait qu'il y a une chute.
Et surtout dimanche.
Et surtout dimanche. Et donc, il y avait forcément la question de la chute à un moment. Je ne pouvais pas faire monter la sauce et à la fin dire « bon, bah fin, merci, au revoir ». Donc forcément, j'ai vraiment travaillé cette fin, mais je me disais « comment je l'écris ? Sur 3 pages, sur 30 pages, comment je structure pour que l'effet soit le plus waouh possible. »
Et waouh, je vous garantis bien quelles le sont ces 5 dernières pages de Mon mari, premier roman de Maud Ventura, publié aux éditions de l'Iconoclaste.
Waouh, j'ai une petite idée, mais je vais vous piquer le bouquin quand même, Bernard, mais ça peut être aussi une belle histoire d'amour. Umberto Tozzi. Vous avez le droit de chanter avec nous. Hein. Ti amo, une histoire d'amour peut-être. Mon mari, avec Maud Ventura et Bernard Lehu. Place à votre plateau télé du soir et du week-end, avec encore de la musique, ça tombe bien.
On va rester dedans, on va rester avec la musique. Ce soir, vous avez le choix, par exemple, entre des casseroles et des voix divines sur TF1 avec Good Singers.
J'ai voulu dormir,
quoi,
mais j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel.
Vous avez reconnu, c'est la casserole. Il y a aussi des voix divines. TF1 ce soir, mais il y a aussi un très chouette documentaire sur le plus déjanté des groupes rock sur Arte, dans la case Summer of Passion, en partenariat avec RTL, le groupe américain Kiss, connu pour ses costumes clinquants, ses maquillages. Souvenez-vous, il y avait un chat, un monstre, un astronaute et un arlequin.
Mais oui.
C'était presque des super-héros sortis d'une bande dessinée. Le groupe a vécu des hauts et des très bas, alcool, drogue. Ce soir, les membres fondateurs racontent l'histoire de ce groupe légendaire. Il y a plein d'images d'archives, il y a évidemment plein de musique. Groupe légendaire à qui il a fallu dès le départ trouver un nom. Et c'est le guitariste Paul Stanley qui raconte.
Les quatre personnages fonctionnaient merveilleusement bien ensemble. On était prêts pour la scène et pour conquérir le monde. Mais il nous manquait un nom. J'ai pensé au baiser de la mort, ou au baiser passionné, et ça m'a paru comme une évidence. J'ai inspiré un bon coup, et je me suis lancé. Qu'est-ce que vous pensez de Kiss ?
Story, Arte, 22h40 ce soir.
Kiss, je vous fais un bisou. J'adore. I was made for loving you, baby. Demain, musique aussi ?
Eh oui, exactement, avec l'événement du week-end, le grand retour de The Voice Kids sur la une, les deux nouveaux coachs, Julien Doré et Louane, qui rejoignent Kenji Girac et Patrick Fiori. Julien Doré et Louane, devenus de fervents défenseurs du concept, on va rappeler quand même que Julien Doré a démarré sa carrière dans Nouvelle Star sur M6, et fervents défenseurs d'une émission où des enfants viennent donc s'exposer quelque part au jugement des artistes et du public. magique.
Puis c'est un tremplin de l'instant. Je veux dire, un enfant même de comme on a vu, de 8 ans, n'est pas dupe. Il sait très bien que la vie qui l'attend, bah, c'est le lendemain, retourner à l'école, vivre sa passion, vivre des aventures et peut-être faire un tout autre métier. Aucun enfant n'est dupe.
Après, honnêtement, nous, on les accompagne au mieux. Ça arrive pas qu'on en laisse partir en larmes, en fait. Jamais. Et puis, très souvent, on leur dit travaille un peu et reviens l'année prochaine. Et de ce que j'ai compris, et vous verrez, ils reviennent.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48.
Julien Doré et Louane avec Isabelle Morini-Bosque. Le petit garçon qui chante,
oui,
il a 11 ans. Il s'appelle Louison.
C'est la chanson de Stromae, ça, c'est Carmen.
Exactement. Ah, ah. Si vous êtes plutôt série, allez voir sur M6 The Lost Symbol, qui a bien marché la semaine dernière en audience, adapté des romans de Dan Brown. On est avant le Da Vinci Code. Et puis dimanche, du cinéma presque partout, je vous signale pour sa première diffusion à la télévision Le Dindon, film de Jalil Lesper, libre adaptation de la pièce de Fedo avec Danny Boone, Guillaume Gallienne et Alice Paul. C'était un film RTL à sa sortie au cinéma en 2019. C'est un quintet amoureux parsemé de zizanie. Comédie, c'est sur France 2 à 21h. Et pour boucler la boucle musicale, pour les enfants, rendez-vous sur W9 avec Un monstre à Paris. On se souvient évidemment de ce duo merveilleux sur la bande originale qui accompagnait le film. Vanessa Paradis, Mathieu Chédid.
Extra lucide, quand tu es sûr.
W9, 21h, Un monstre à Paris. Et puis une page se tourne pour deux figures de la télévision, deux piliers du jeu des chiffres et des lettres, qui ne sera plus diffusé que le week-end à la rentrée. Bertrand Renard, Monsieur Chiffre et Ariel Boulin-Prat, Madame Lettre, vont quitter le jeu. Bertrand y était depuis 1975, après avoir été candidat 12 victoires. Il avait eu à l'époque, il avait même gagné 6000 francs. Et Ariel, depuis 1986, c'est une sacrée page qui se tourne. On ne connaît pas encore les noms des remplaçants.
Oh là là, cette musique. Patrice Lafont, Laurent Romain.
Eh oui, qui a fait le point.
Ça rappelle une blague de Laurent Gérard sur Johnny Hallyday. Il faisait des chiffres et lettres, il faisait consonne. Ben, va ouvrir la porte. Voilà. Laurent Marsic, laissez-vous tenter de l'été la météo juste après ça.
RTL Soir.
Vos prévisions météo, et pour ce soir, et pour les nuits prochaines, et pour les jours prochains. Claire Delorme.
C'est un week-end qui s'annonce à la fois calme et de plus en plus ensoleillé. Encore un petit peu de patience pour la matinée de samedi où le ciel sera encore assez couvert de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le nord-est. Elle apportera donc beaucoup de nuages et puis quelques averses résiduelles ponctuées d'un orage allant donc du Jura vers l'Alsace. Que ce soit vers la Bretagne, la Normandie en remontant vers les Hauts-de-France, ça sera déjà un ciel beaucoup plus variable avec en matinée quelques brumes et brouillards mais qui après leur dissipation laisseront passer quand même beaucoup de soleil. Soleil d'ailleurs que l'on retrouve dès le matin des Pyrénées en direction de l'Auvergne en passant par la Méditerranée. Un soleil qui va devenir de plus en plus éclatant en fin de journée, là encore dans ces mêmes régions. Tout de même avec Mistral et Tramontane, jusqu'à 70 km/h. Pour les températures, eh bien, nous sommes dans les normales de saison, l'après-midi comprise entre 24 et 28 degrés.
Merci beaucoup Claire Delorme, spécialiste météo sur RTL.
RTL.